Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, quatre questions. À quoi bon exister? Se marier rend-il plus heureux? Comment tromper le désespoir? Et faut-il croire en Dieu? La réponse à ces questions, ce sera tous les matins à 10h avec Søren Kierkegaard, le chevalier danois qui pensait mourir à 33 ans et demeurer à jamais incompris. Eh bien ce matin, nous allons lui donner tort. Allez en route sur les chemins de la philosophie.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
Bonjour Vincent Delecroix.
Bonjour Adèle Van Rett.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes spécialiste de la philosophie des religions, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Vous avez travaillé, traduit, commenté l'œuvre de Kierkegaard depuis des années. Vous faites aussi paraître un roman chez Gallimard, Ascension. D'ailleurs, c'est l'effet Kierkegaard, non hein? On nous plongeait dans l'obscurité et la mélancolie. You want it darker, chante Leonard Cohen, pour mieux nous élever.
Oui, ça doit être ça. En tout cas, pour se tirer du désespoir, oui, c'est pourquoi pas une navette spatiale, par exemple.
Et on commence avec Leonard Cohen, parce que finalement, commencer avec ce qu'il y a d'encore plus sombre, c'est un bon point de départ pour suivre Kierkegaard.
Oui, surtout que la chanson, comme on l'entend particulièrement religieuse, elle est liée justement à l'appel de Dieu. Je suis là. Hinani, hinani, c'est la phrase de la Torah. C'est viens ici. Et voilà, c'est l'appel de Dieu.
Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Alors pour information, Søren Kierkegaard est né en 1913 à Copenhague. Il reçoit une éducation chrétienne triste et austère, qui selon ses dires, fut à vue humaine une folie. Sa mère, ses trois sœurs aînées et ses deux frères meurent tous de maladie ou accidentellement en l'espace de quelques années et sans jamais dépasser l'âge de 33 ans. La mélancolie le ronge, mais héritier d'une grande fortune après le décès de son père aussi, il se consacre à l'écriture, s'invente des pseudonymes et s'en prend à l'histoire de la philosophie en attaquant frontalement Hegel. Après avoir atteint l'âge inattendu de 34 ans, il donne à son travail un tour plus religieux avant de mourir à l'âge de 42 ans. Et pourtant, Vincent Delecroix, les centaines, voire même les milliers de pages qu'il nous laisse entre son journal et les ouvrages publiés, peuvent être lues comme autant de viatiques, car elles ne visent qu'un but, comment devenir soi, comment se venir en aide quand tout nous abandonne, et il savait de quoi il parlait.
Oui, vous faites bien de rappeler sa biographie, puisque comme vous le savez, s'il y a bien un philosophe pour lequel la vie concrète, la biographie, la chair, le sang, les sentiments sont liés au concept, c'est bien Kierkegaard. Il y a Nietzsche d'un autre côté, mais il y a Kierkegaard. La philosophie de l'existence, comme on le dit, elle naît aussi de cette nécessité pour le philosophe de ne pas s'oublier lui-même, ce qu'il reproche à Hegel. Donc il ne faut pas s'oublier soi-même, tout simplement. Et ça veut dire, d'une manière générale, comme vous le dites, il faut se retrouver soi-même, puisque, on le verra, l'existence est aussi un milieu de la dispersion, de l'inauthenticité, tout ce qu'on voudra. Mais il ne faut pas s'oublier soi-même quand on écrit de la philosophie, tout simplement. On n'est pas un pur esprit, on est aussi quelqu'un qui mange, qui boit, qui est riche, qui a des soucis, ou qui est pauvre, qui marche dans la rue, qui regarde des gens, voilà, et c'est ça qu'il faut aussi, qu'il y a des expériences vitales, et c'est dans ces expériences vitales qu'on va chercher le concept, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire on dispose pas du concept pour pouvoir, subsumer le réel sous un système, mais on va chercher dans les expériences elles-mêmes de la subjectivité existante, quelque chose à penser. Voilà.
Les expériences sont très importantes pour Kierkegaard et d'ailleurs tout son travail peut être lu comme un effort pour essayer de nommer ces expériences traversé par un souci, comment faire se rencontrer l'être humain fini, c'est-à-dire mortel que nous sommes, et l'infini, l'absolu, qui paraît complètement absurde dans notre vie et qui pourtant est la seule direction à suivre pour tenir bon.
Oui, il y a des notations célèbres dès le début du journal. Je veux trouver une vérité pour laquelle vivre et mourir. C'est une formule qui n'est pas du tout une formule pleine de forfanterie. Hein. C'est quelque chose, on le sent, c'est quelque chose d'extrêmement vital et c'est d'une certaine manière le point de départ, le point d'ignition de la nouvelle philosophie ou de la nouvelle pensée qu'il va inaugurer. C'est-à-dire, précisément, la philosophie se manifeste de manière extrêmement décevante face à cette, face à cet appel vital de la vérité. Une vérité pour laquelle je peux vivre et mourir, c'est rarement la philosophie qui l'est fournie. Or, c'est ça que cherche le jeune Kierkegaard. Et cette vérité pour laquelle je veux vivre et mourir, c'est le christianisme.
C'est ça, donc en réalité, la solution qu'il propose est une sorte d'aveu de défaite de la philosophie. La philosophie ne suffit pas à nous venir en aide.
Non, bien sûr que non. Et Kierkegaard se range parmi ces flamboyants anti-philosophes qui hantent l'histoire de la philosophie et qui la font rebondir. Encore que sur le terme d'anti-philosophe, il faut être assez précautionneux, assez circonspect. Mais ce qui est sûr et ce qui est le paradoxe, c'est que Kierkegaard, il entre en philosophie contre la philosophie.
C'est-à-dire contre Hegel à ce moment-là.
Contre Hegel, contre le hegelianisme, mais aussi contre tout ce que Hegel parachève, c'est-à-dire une tradition métaphysique qui va de Platon jusqu'à lui, qui passe par les grands idéalistes allemands, Kant, Fichte, y compris Schelling, qui est pourtant l'un des initiateurs de la philosophie de l'existence, mais qui est trop vieux, comme dit Kierkegaard. Bref, il entre en philosophie contre cette histoire même de la philosophie, tout simplement parce que, pour des raisons religieuses, hein, comme vous l'avez dit, il a été élevé dans un milieu piétiste extrêmement dur, extrêmement austère, qui confine effectivement à la folie, en tout cas à la folie de la croix, ça c'est clair et net, et contre lequel aussi il aura la dent dure d'ailleurs, mais par cette vérité qu'il dévore, qu'il incendie, il entre en philosophie parce qu'il juge que et la philosophie et la religion, c'est-à-dire le christianisme, ont tout à perdre de leur noce contre nature, de leur combinaison, de leur accoquinement. Et ça, c'est toute l'histoire, en réalité, de la philosophie occidentale, ou ce qu'on pourrait appeler l'ontothéologie, c'est-à-dire le mariage, l'hybridation contre nature du christianisme et de la philosophie, pour Kierkegaard, bien entendu. Donc il faut séparer les deux. Il faut séparer les deux au nom du christianisme, mais aussi au nom de la philosophie. La philosophie, non pas simplement parce que la philosophie doit être autonome, mais parce que la philosophie, elle doit retrouver, comme on dit aujourd'hui d'un mot très maladroit, ses fondamentaux, elle doit retrouver en tout cas sa racine. Et sa racine, elle est éthique, sa racine, elle est vitale, elle est socratique, elle consiste à savoir ce que nous sommes, ce que nous devons devenir et ce que nous devons faire, tout simplement. C'est-à-dire une préoccupation éthique, vitale, pour soi-même. Ça, la philosophie l'a complètement oublié, d'après Kierkegaard, avec la construction des grands systèmes de la métaphysique. On s'est éloigné de la vérité socratique, de ce point de vue-là.
C'est-à-dire qu'on ne se tourne pas vers la philosophie comme on se tourne vers la religion, parce qu'on aurait tendance à penser que ce sont deux options possibles qui se présentent à nous en cas de désespoir, de crise d'angoisse, puisque Kierkegaard est vraiment le penseur de l'angoisse, et de très belles pages sur ce qu'on appelle l'angoisse, sur la douleur du deuil, de la perte des êtres aimés, sur la difficulté de choisir une direction. On peut se dire dans ces moments-là, eh bien, qu'avons-nous à notre disposition? Le médecin, le philosophe, le religieux? Kierkegaard va dire non, en fait, ce sont trois options très différentes qui sont même contradictoires.
Oui, enfin, si la philosophie avait sauvé qui que ce soit, ça serait malheureusement, en tout cas pour selon
la religion aussi.
Selon Kierkegaard, ça n'en sait rien.
Ah bon ?
D'après lui, en tout cas. Mais enfin bon, c'est une question sur laquelle j'espère que nous allons revenir.
Mais, avec plaisir.
Mais en l'occurrence pour Kierkegaard, la philosophie, c'est ce qu'il appelle une nourrice sèche, c'est-à-dire qu'elle promet beaucoup, mais elle donne peu, et elle est très décevante. Donc il ne faut pas espérer une rédemption de sa part, pas plus qu'il ne faut espérer une rédemption de la religion instituée. pour Kierkegaard, qui est aussi l'objet d'une critique extrêmement virulente, extrêmement véhémente, qui a des accents d'ailleurs pré-nietzschéens, tout à fait net. Hein. Il a terminé sa carrière, sa vie, en insultant les pasteurs, en insultant l'Église, etc. Parce que c'est aussi une dénaturation de la foi originelle. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que vous avez cité à dessein le nom ou la catégorie du médecin, et ça, c'est pas anodin. On commence dans ces années-là, et évidemment, ça trouvera son apogée aussi chez Nietzsche avec le médecin de la civilisation, mais on commence dans ces années-là, c'est-à-dire avec l'effondrement des grands systèmes de la métaphysique, avec la décomposition de l'idéalisme allemand, avec aussi une espèce de perception du nihilisme contemporain qui va devenir, j'allais dire, une ambiance continuelle de la pensée de la deuxième moitié du 19e siècle. On commence à percevoir quelque chose comme des symptômes de la maladie. Pour Kierkegaard, il y a une maladie très nette qui s'achève dans le désespoir, mais il y a une maladie de l'individu qui comprend à la fois une maladie psychique, une maladie de l'âme, une maladie pneumatique, mm-hmm, d'une certaine manière, et une maladie de la civilisation.
Reste à savoir qui peut devenir le médecin de cette civilisation, et si la solution est la même pour chacun d'entre nous, pour la société dans son intégralité. Écoutons un extrait de Kierkegaard, un texte de Kierkegaard interprété par le comédien Yvan Moran, tiré du point de vue explicatif sur mon œuvre. Kierkegaard est l'auteur lui-même d'ouvrages sur son propre travail et sur sa propre vie. Alors pour quelqu'un qui pense que la philosophie et la biographie sont une étape vers la religion, mais ne sont qu'une étape, il y a accordé quand même beaucoup de temps et de travail. Écoutez comment le portrait qu'il dresse de lui-même est celui d'un homme mélancolique, qui erre, qui ne peut devenir ce qu'il souhaite être, et qui, le plus naturellement du monde, va se tourner vers Dieu. Est-ce en désespoir de cause ou est-ce au contraire le choix ultime de son existence? Vous nous direz, Vincent Delecroix.
J'allais dans la vie favorisé de toute manière sous le rapport de l'esprit et de la vie matérielle. Tout était donné et tout fut fait pour développer mon esprit et l'enrichir le plus possible. Bien qu'avec une sympathie et une prédilection marquées pour la souffrance et ce qui, d'une manière ou d'une autre, gémit et pâtit, je peux dire qu'en un sens j'affrontais hardiment la vie, dressée dans une fierté presque téméraire. À aucun moment de ma vie je n'ai perdu cette foi. Ce que l'on veut, on le peut, sauf une chose. Mais tout le reste absolument, sauf une chose, la suppression de la mélancolie au pouvoir de laquelle je me trouvais. J'avais une écharde dans la chair, les talents de l'esprit, surtout l'imagination et la dialectique, une éducation chrétienne vraiment rare et une attitude tout particulièrement dialectique à l'égard du christianisme. J'avais appris dès l'enfance à obéir, d'une obéissance absolue. J'étais muni d'une foi presque téméraire en ma capacité de pouvoir toute chose, sauf une, devenir un oiseau libre, ne fût-ce qu'un seul jour entier, ou rompre les chaînes de la mélancolie où une autre puissance me retenait. Enfin, j'étais pour moi-même un pénitent. Il me semble maintenant qu'une autre puissance a pris soin, dès le premier moment, de ce sursis, semblable en cela au pêcheur disant au poisson « Laissons-le ». Il est encore trop tôt de le pêcher. Et, fait curieux qui remonte aussi très loin dans mon souvenir, sans que je puisse aucunement en indiquer la date, ni dire comment l'idée m'en est venue, constamment, c'est-à-dire chaque jour, j'ai demandé à Dieu de me donner le zèle et la patience nécessaires pour accomplir la tâche qu'il m'assignerait lui-même.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h14 et vous venez d'entendre un extrait du point de vue explicatif sur mon œuvre, un texte de Søren Kierkegaard qui nous accompagne cette semaine, publié en 1848. Nous sommes en compagnie du philosophe Vincent Delecroix qui vient nous aider à répondre aux questions que soulève Kierkegaard. Quand on entend ce texte, la beauté de ce texte et de son interprétation, je tiens à le dire, par le comédien Yvan Moran, Il me semble que, y compris lorsque l'idée même, l'envie même de croire en Dieu nous est absolument étrangère, on considère une demi-seconde que c'est peut-être une option. Parce qu'il le dit de manière tellement naturelle et même convaincante et belle qu'on se dit, après tout, pourquoi pas lui qui dit n'avoir jamais réussi à devenir un oiseau libre. Cette formule est touchante.
Oui, elle est magnifique. C'est un texte très important qui n'est pas souvent lu, pas assez lu. Je suis très heureux que qu'on puisse l'entendre ici. C'est un texte extrêmement important qu'il a écrit au moment où il pensait, ça lui est arrivé plusieurs fois au cours de sa carrière, au moment où il pensait poser la plume définitivement. Avoir achevé son œuvre, c'est-à-dire avoir rempli d'une certaine manière la stratégie qui était la sienne dès le début. J'y reviendrai là-dessus parce que l'idée que le religieux est tout à la fin de son œuvre et qu'il se découvre finalement religieux, c'est faux. Le texte qu'on vient d'entendre et le livre qu'on vient d'entendre est dirigé pour contrer cette interprétation. C'est-à-dire dire le religieux était prévu, était là dès le début dans mon œuvre, sauf qu'il était caché, il était derrière les pseudonymes, il était derrière un certain nombre de textes extrêmement brillants, de la littérature très très brillante, derrière une espèce d'apparence mondaine et esthétique. Mais en fait, il était là. Bon. Et tout le but de mon œuvre, c'était de le faire surgir progressivement et d'attirer le lecteur vers le religieux qui était sous-jacent. Ça, c'est une première chose qui est très importante dans ce texte-là. Et puis, ce texte-là, c'est aussi une clé, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais une clé fournie par l'auteur lui-même pour comprendre l'intégralité de son œuvre. Il se relie lui-même. C'est exactement comme Nietzsche dans Ecce Homo, pourquoi j'écris de si bons livres, etc. Et vous avez compris que c'est pas la modestie non plus qui l'étouffe. Il s'agit tout simplement de passer en revue sa carrière d'écrivain et de systématiser. Alors on dit toujours que Kierkegaard est un penseur anti-systématique, c'est vrai, mais il a une œuvre parfaitement cohérente, au contraire extrêmement concertée. Et ce livre-là a pour but de faire apparaître cette cohérence qui est effectivement hallucinante quand on voit la stratégie qu'il emploie. Et enfin, troisième chose, il raconte sa vie, tout simplement. Et parler et comprendre son œuvre, c'est aussi comprendre ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire c'est ce qui est l'espèce de pulsion qui l'apporte. Et là, c'est un portrait, vous l'avez dit, il est absolument magnifique, c'est un portrait ultra romantique. Il y a un certain nombre de caractéristiques du romantisme, la génialité, la mélancolie, les talents de l'esprit, l'isolement, le malaise, c'est vraiment l'inauguration du mal du siècle qu'on entend là. Donc très romantique, mais en même temps, avec ce qui est très romantique aussi, le religieux en dessous, mais en même temps, toute la carrière de Kierkegaard va viser à surmonter, à dépasser le premier romantisme allemand, justement, à dépasser cette idée romantique, justement en disant, regardez, j'avais tous les talents, les fées se sont penchées sur mon berceau, j'avais tous les talents, la dialectique, la poésie, je suis un des plus grands poètes du Danemark, et en fait, je n'avais rien. Il me manquait l'essentiel. Or, cet essentiel, le religieux, il n'est pas donné par les forces naturelles, par le talent, par le génie. Voilà.
Alors, il faut qu'on définisse ce que vous entendez, ce que Kierkegaard entend par religieux. Simplement, pour bien comprendre ce que vous venez de dire, Vincent Delecroix, il faut garder en tête que de Kierkegaard, on retient l'idée d'une trajectoire au sein de son œuvre qui consiste à décrire trois stades de l'existence. Le premier est le stade esthétique, dans lequel l'homme vit selon son désir, en perpétuelle insatisfaction, va de frivolité en frivolité et finalement ne fait que plonger dans une espèce de détresse insoluble, à moins de passer, alors je le dis de manière très caricaturale, vous rentrerez dans la nuance ensuite, à ce qu'on appelle le stade éthique qui consiste
à se marier,
à rencontrer une personne, décider de faire sa vie avec cette personne, de lui être fidèle. La joie que nous tirons de cette fidélité, de ce choix éthique, est supérieure au plaisir lié au stade esthétique. Mais, nous dit-il, le stade éthique ne suffit pas. Il y a un troisième stade, qui est celui du stade religieux, où de l'amant au mari, on devient chevalier de la foi, stade ultime qui consiste à regarder Dieu bien en face ou à accepter qu'il soit déjà présent et à vivre dans une soumission à l'égard de ce Dieu. C'est ce qui est dit dans ce texte ici. On a du mal à voir comment, dans cette trajectoire, même si dans la vie les stades ne sont pas forcément successifs et les sauts ne se font pas naturellement, c'est le moins qu'on puisse dire, comment cette accession au statut de chevalier de la foi et donc à une forme de soumission à Dieu est une libération, une solution à quoi que ce soit.
Alors pour le comprendre, pour en discuter du moins, Pour le comprendre, il faut se reporter à ce que vous disiez tout au début, c'est-à-dire que c'est un écrivain du devenir soi, c'est un écrivain qui est préoccupé par le fait d'être vraiment soi-même, pour le dire de la manière la plus, j'allais dire, caricaturale, psychologisante.
Psychologisante surtout, oui.
Qui soit vraiment de la psychologie, du magazine de psychologie. C'est pas du tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que l'obsession de l'œuvre de Kierkegaard, c'est que nous sommes dans un état dans lequel la subjectivité concrète est totalement dispersée, inconsistante, annihilée, et que d'une certaine manière, nous avons une tâche qui est celle d'exister. Beaucoup de gens vivent, peu de gens existent.
Quelle différence entre vivre et exister ?
Vivre, c'est organique, c'est
être en vie.
C'est être en vie, mais c'est pas seulement être en vie. Hein. C'est faire nos tâches quotidiennes, c'est sans trop se poser de questions, c'est souffrir, être heureux, etc. Il y a rien de péjoratif là-dedans, si vous voulez. Mais exister, c'est une tâche, c'est à la fois un donné parce que tout le monde existe évidemment, mais c'est une tâche, c'est-à-dire exister comme sujet véritable. Et toute la préoccupation de Kierkegaard, c'est à quelles conditions suis-je un vrai sujet ? À quelles conditions puis-je dire je ? La mélancolie dont on parlait, dont il parlait lui-même, c'est d'abord cette impossibilité de dire je.
Cette dissolution du sujet à lui-même.
Cette dissolution du sujet, cette distance à soi-même, c'est le démon de la dialectique et de la réflexion aussi, que tous les philosophes ont éprouvé une fois, d'ailleurs tout le monde a éprouvé une fois dans sa vie, c'est-à-dire l'impossibilité de coller à soi-même, cette espèce d'obsession de la réflexion. Et ça, c'est une tare, c'est à la fois une chance et une tare, c'est-à-dire cette impossibilité de coller à soi-même. Bref, tout le parcours que cherche à suivre Kierkegaard, c'est comment on arrive à soi-même, comment on finit par devenir un sujet qui peut légitimement dire « je ». Et derrière lequel « je », il y a quelque chose, il y a un vrai...
Ou quelqu'un même.
C'est-à-dire quelqu'un, un vrai sujet de ses actes. Et les stades dont vous parlez, qui rend pas compte de la complexité de la pensée de Kierkegaard, mais qui nous donne quand même une image qu'il a lui-même utilisée, donc pourquoi ne pas le faire, ces stades sont des stades de la... qui correspondent à certains types de subjectivité, à certains statuts de la subjectivité, à certaines consistances de la subjectivité. Le stade esthétique, c'est un sujet complètement dispersé, dissolu dans le temps, par le désir, éclaté, c'est Don Juan,
c'est
la musique, c'est-à-dire un sujet livré aux impressions, un sujet livré, c'est magnifique, c'est la jouissance absolue, c'est la poésie, c'est la négation du réel, c'est
l'adolescence,
la rêverie romantique, on peut être tout, on peut être rien, on n'entre pas dans l'existence, surtout pas parce que c'est moche, c'est sale, c'est gris, et c'est contraignant, et voilà, et on est un roi un jour, on est un pauvre l'autre jour, et on peut être tout. Bon, le but, c'est de transformer cette espèce de d'ébullition de la subjectivité, de dispersion, d'évaporation permanente de la subjectivité, en quelque chose de condensé, justement, de condenser cette subjectivité. Le stade éthique. Alors, il faudrait rentrer davantage, mais vous allez parler du mariage, donc
mercredi prochain.
Je ne vais pas rentrer dans le détail.
Mais quand même, dites-nous en deux mots.
Mais le stade éthique, c'est précisément la structuration de la subjectivité à partir de la loi. À partir des mœurs et de la loi.
C'est-à-dire, se mariant, on se donne une loi. On choisit une loi.
On choisit un temps continu. C'est la constance. C'est fini la dispersion du désir. L'inconstance, c'est fini. Il faut être constant, malheureusement. Enfin, théoriquement. Mm-hmm. Donc, le temps devient moins fluide, peut-être, mais il devient plus consistant. Nous ne sommes pas dispersés dans l'instant, ou plus précisément, cet instant est repris dans chaque première fois. Bon. Et puis surtout, le sujet se structure, et là il faut penser vraiment en termes kantiens, c'est-à-dire en termes de personnalité kantienne, dans le stade éthique, le sujet devient sujet des lois, c'est-à-dire sujet de la loi qu'il se donne, de l'autonomie kantienne, sujet des lois de la société, de la loi sociale, de l'État, il devient une personnalité morale, un citoyen, c'est-à-dire un sujet politique.
Donc il se libère de l'angoisse en se donnant à lui-même sa propre loi, c'est le paradoxe.
Mais il peut se donner à lui-même sa propre loi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un subjectivisme, si on suit Kant, c'est exactement le contraire d'ailleurs, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que c'est un sujet défini par rapport au général. c'est-à-dire un représentant du général. Oui. Le général, c'est la loi morale, c'est les mœurs de la société, c'est la loi politique de l'État. Bon. Et enfin, donc il y a une structuration du sujet, mais le sujet, là, vous le comprenez bien, il est défini comme sujet singulier peut-être, mais en rapport avec le général. Le stade religieux est d'une certaine manière, un retour à l'immédiateté première, dans l'instant, c'est l'importance, là le temps se fractionne de nouveau, c'est l'événement de la foi, c'est le saut de la foi, mais le sujet, cette fois-ci, n'est plus en rapport avec le général, mais il est en rapport avec le singulier lui-même, et il devient singulier. L'idée, c'est que c'est pas tellement une libération, le stade religieux, c'est une hyper-condensation, d'une certaine manière, c'est-à-dire, jamais vous n'avez été vous-même, c'est-à-dire jamais vous n'avez été à ce point isolé devant Dieu. C'est-à-dire vous êtes un individu singulier, personne ne peut vous venir en aide, personne ne peut vous dire quoi penser, personne ne peut vous instruire là-dessus. Là, vous devez vous décider. Vous devez vous décider si vous croyez ou si vous ne croyez pas. Et là, vous êtes complètement seul. Et c'est cette obligation de choisir pour soi-même qui concentre la subjectivité. Là, vous devenez un pur sujet singulier. C'est-à-dire, vous n'êtes pas le sujet général de la loi, vous êtes celui qui décide de votre âme, tout simplement. Enfin, tout simplement, voilà. Dans un abîme d'angoisse, parce que vous ne savez pas si ce que vous faites, si vous choisissez bien ou pas, mais en tout cas, vous choisissez, et en choisissant l'un ou l'autre, soit vous vous scandalisez, soit vous avez la foi, eh ben vous choisissez vous-même. En tout cas, cette fois-ci, il y a un événement dans votre existence où vous avez été seul.
Voilà. Et vous avez choisi. Mais ça veut dire quand même, Vincent Delecroix, que croire en Dieu est une affaire de choix.
Ouais.
Comme si, suffit-il de décider de croire en Dieu pour y croire vraiment?
Alors ça, c'est un gros problème. Oui. Ben c'est oui. Un gros problème. C'est un gros problème, d'ailleurs, en épistémologie contemporaine de la croyance, que je travaille un peu par ailleurs, parce que Kierkegaard et un certain nombre de disciples contemporains de Kierkegaard insistent justement sur le caractère purement existentiel de la foi, à l'opposé de la croyance, qui, elle, peut avoir des raisons, qui peut être rationnelle.
Alors ça, c'est important. Vous distinguez foi de croyance.
Ah bah c'est fondamental. C'est très simple ou très paradoxal. La croyance, c'est croire à quelque chose de crédible. La foi, c'est croire à quelque chose de pas crédible. Aussi étrange que ça puisse paraître, la foi, c'est le contraire de la croyance. Quand vous avez la foi ou quand vous prétendez avoir la foi, vous croyez pas parce que vous avez de bonnes raisons de croire. Vous croyez parce que c'est impossible. Ça, c'est la foi. La croyance, au contraire, elle est toujours liée à des raisons. Et encore une fois, je tranche pas, hein, mais la croyance, elle est liée à des raisons, à un type de savoir, quoi qu'on en dise, à des contenus, et à des contenus plus ou moins rationnels, qu'il s'agit plus ou moins de justifier. Donc on croit toujours...
Pour certaines raisons.
Pour certaines raisons. C'est-à-dire, on croit au crédible, on croit au croyable. La foi, c'est croire à l'incroyable, justement. C'est Abraham, c'est-à-dire croire quelque chose qui est insensé. Quelque chose qui ne peut pas, c'est la croyance en l'impossible, c'est exactement là-dessus que reviendra Derrida dans son commentaire sur Kierkegaard dans Donner la mort. C'est là-dessus que reviennent un certain nombre de théologiens postmodernes qui opposent systématiquement ces deux catégories de la foi et de la croyance. Mais cette opposition qui est structurante, hein, elle est structurante dans la philosophie. Elle vient aussi de la religion, elle vient du protestantisme qui oppose religion et foi, qui oppose croyance et foi. Et ça, c'est vraiment une opposition structurante chez Kierkegaard.
Alors, pour bien la comprendre, on va donner la parole à Jean-Pierre Belmondo et Emmanuel Riva, qui vont l'un et l'autre, dans un dialogue interprété dans Léon Morin Prêtre, le film de Jean-Pierre Melville de 1961, avoir cette discussion justement sur la distinction entre foi et croyance, qui est, comme vous incitez sur ce point-là, Vincent Delecroix, décisive pour comprendre ce que Kierkegaard lui-même entend par croyance. Écoutez.
À votre point de vue catholique, si je continue à vivre en athée, je suis fichu.
Mais non, mon petit, vous n'êtes pas fichu. C'est à vous de vous remuer. Si Dieu forçait notre adhésion, nous serions plus libres.
Votre comparaison de tout à l'heure entre la croyance en Dieu et l'amour, elle ne convient pas du tout. On aime quelqu'un sans preuve, oui, mais c'est grâce à des preuves qu'on sait que cette personne existe.
En somme, vous vous demandez tout le temps si Dieu a l'existence ou s'il ne l'a pas. Dieu ne possède pas l'existence. Dieu est existence. Vous savez, Jéhovah a dit « Je suis celui qui suis ».
C'est C'est un peu comme si on disait X égale X.
Vous, monsieur l'abbé, vous me présentez tous les arguments propres à me faire croire en Dieu. Mais un athée aurait trouvé les arguments opposés de la même force.
Sûrement. Nous avons tort de bavarder comme ça. Les paroles, à quoi ça sert? Dieu, c'est avant tout une réalité expérimentale, individuelle, différente pour chacun de nous. Et incommunicable.
Incommunicable. C'est atroce.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas?
Comment? Qu'est-ce que ça peut me faire? Il n'y a que ça qui compte. Je voulais me tuer en philo à cause de lui.
Riche idée.
L'intérêt de la foi est de mettre un terme, de poser une décision absolue. L'intérêt de la raison est de maintenir en vie ses considérations. Si sa délibération prenait fin, la raison serait dans un grand embarras, comme le serait la police s'il n'y avait pas de crime. La foi veut poser l'absolu. La raison entend poursuivre ses examens. Mais qu'il est difficile de croire aujourd'hui, en notre 19e siècle où tout est plongé dans un chaos de réflexion et d'examen. Et c'est pourquoi l'on trouve vraiment un grand secours, à voir bien nettement que la foi a pour objet l'absurde. Cela abrège puissamment. On pourrait même dire, entre autres, que c'est par sollicitude pour les hommes, et pour leur permettre d'en venir à croire, que Dieu a fait de l'absurde l'objet de la foi, et qu'il a fait dire d'avance que cet objet a été, est et sera absurde. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, les 10h32, dans l'extrait de Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville, que nous avons entendu Vincent Delecroix. La femme, Emmanuelle Riva, disait que finalement les raisons de croire en Dieu étaient bien faibles et qu'il suffisait peut-être de l'aimer. D'ailleurs, dès qu'on rentre dans la discussion de la querelle même autour des raisons d'existence de Dieu, ben on en vient à des choses insolubles en philosophie. Elle dit qu'elle a failli se tuer à cause de Dieu dans ses cours de philosophie. Kierkegaard vient à son secours ensuite, puisque j'ai lu un extrait de son journal de janvier 1851 à août 1852, dans lequel il propose une définition qui en fait éclaire assez bien les choses, hein, comme souvent chez Kierkegaard, même si parfois le style est compliqué. Là non, il dit, eh bien finalement la foi, bah, c'est ce qui nous met face à l'absurde. Donc c'est l'inverse des raisons que l'on se donne pour croire en Dieu.
Alors c'est vrai, c'est l'un des objets de Crainte et Tremblement.
L'ouvrage que Kierkegaard publie, hein, qui s'appelle Crainte et Tremblement.
Ouais, qu'il a publié quelques années auparavant. Il faut faire attention aux contresens assez fréquents dans lesquels on tombe en ce qui concerne cette accentuation de l'absurde chez Kierkegaard. Elle est indéniable, hein, et, il ne s'agit pas du tout de la contester, mais elle fait pencher l'image de Kierkegaard vers une espèce de représentation irrationaliste, voire obscurantiste de la foi. Vous avez bien noté que dans le texte que vous avez lu, l'important c'est la décision. Hein. L'important c'est la décision, c'est-à-dire le hiatus qu'il y a entre l'accumulation des raisons et le moment où l'on choisit. C'est une espèce de mécanique ou de dynamique de la prise de décision, si vous voulez. Ce que veut dire Kierkegaard, c'est pas nécessairement le fait que la foi soit irrationnelle, qu'elle conteste frontalement la raison. Oui, elle la conteste frontalement, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que les raisons, la raison, c'est les raisons. Et les raisons, elles sont cumulatives. C'est-à-dire que ce n'est pas en accumulant les raisons que vous allez obtenir, j'allais dire, comme dirait Pascal, un atome de charité. Autant de mouvements de l'esprit, disait Pascal, ne produisent pas un atome de charité. C'est-à-dire qu'il y a un hiatus entre les deux, il y a un saut qu'il faut faire. Vous pouvez avoir autant de raisons de croire que vous voulez, vous n'allez pas avoir la foi pour autant. Et inversement, vous n'avez pas la foi parce que vous croyez. C'est ça le paradoxe, si vous voulez. Vous n'avez pas la foi parce que c'est plus crédible. Ce en quoi vous croyez serait plus crédible. C'est pas comme ça que vous allez avoir la foi. Encore une fois, la foi, croire, c'est croire en l'impossible. Dieu, c'est le fait que tout est possible, c'est-à-dire que l'impossible est possible,
c'est
l'absurde.
Ça, oui. Alors voilà, quelle réalité Kierkegaard met-il derrière le nom de Dieu ? Parce que ce n'est pas un individu qui existe forcément. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu ? C'est l'absolu ? C'est l'infini ?
Oui, mais c'est l'absolu personnel, justement. Le Dieu de Kierkegaard, c'est un Dieu incarné, c'est le Christ. C'est le Dieu le Père, ça c'est sûr. Mais Dieu le Père, il est d'une certaine manière, là je m'écarte un petit peu, mais Dieu le Père, d'une certaine manière, il est parfaitement commensurable avec la philosophie. Mmh. Il est, c'est l'être suprême, c'est l'étant suprême, et Dieu sait si on peut produire des preuves de l'existence de Dieu en tant que tel, c'est-à-dire comme être suprême, la preuve ontologique, etc. Autrement dit, Dieu comme absolu, Dieu le Père, il entre plutôt pas mal dans le système de la métaphysique occidentale, c'est l'ontothéologie. Le Christ, c'est plus difficile. Il n'y a que Hegel qui a réussi, d'une certaine manière, à en faire un objet vraiment spéculatif, le Christ. Mais pour Kierkegaard, le Christ, c'est un paradoxe devant lequel la raison s'arrête. C'est-à-dire, d'une certaine manière, bon, Dieu, on peut le dire incommensurable, il nous dépasse, il est infini, etc. Mais la raison peut le concevoir. Elle peut concevoir l'infini, la raison. Et d'une certaine manière, que faisait Descartes dans sa preuve de l'existence de Dieu par l'infini ? Nous avons l'idée d'infini. Cette idée, c'est l'idée de Dieu. Bon, ah bon, super. Ben là, nous avons des raisons de croire dans ce cas-là.
C'est le Dieu des philosophes, dirait Pascal. C'est le Dieu des philosophes. Pas le Dieu des croyants.
Exactement. Nous avons des raisons de croire, mais nous n'avons pas la foi dans ce cas-là. En revanche, nous sommes placés face au paradoxe qu'est le Christ, c'est-à-dire, qui est censé être le Christ en tout cas, l'infini dans le fini, l'éternité dans le temps, c'est-à-dire quelque chose qui est une contradiction apparente, un paradoxe. Là, la raison se trouve démunie, d'une certaine manière, où les raisons de la raison se trouvent démunies. Elle est face au paradoxe. Et ce paradoxe, on peut essayer de le surmonter, c'est ce que fait Hegel, mais le surmonter, c'est le détruire, ça veut dire détruire la foi. La foi, elle s'en tient au paradoxe. C'est-à-dire, ici, tu dois choisir. Là, maintenant, tu sais que tu es en face de quelque chose devant lequel la raison ne peut que buter et rebuter.
C'est-à-dire, c'est qu'est-ce Abraham. Que
c'est ? C'est Abraham et c'est le Christ.
À qui Dieu demande, pour prouver sa foi sans doute, de sacrifier son fils. Abraham passe 99 ans à attendre d'être père. Oui. Il est enfin père d'Isaac. Au bout de quelques mois ou deux ans, je crois, il me semble que c'est très peu de temps après la naissance d'Isaac, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, de le tuer parce qu'il le demande. Abraham va jusqu'à dégainer son couteau et s'apprête à enfoncer la lame dans le corps de son fils. Dieu, à ce moment-là, l'arrête parce qu'il a vu qu'Abraham pouvait témoigner de sa foi. C'est une histoire à laquelle Kierkegaard accorde beaucoup d'importance, qui est cruel en même temps, qui est terrible, ce qui montre qu'en fait, il y a une forme de... Dieu essaye d'évaluer le degré de notre foi en lui.
Alors, c'est effectivement un épisode fondamental, enfin, un événement, une anecdote fondamentale pour Kierkegaard, une figure fondamentale pour la foi.
On est en plein absurde, en tout
non
cas.
Seulement,
fils si tu crois en moi.
Alors, c'est deux choses. Cet épisode d'Abraham, la ligature d'Isaac, c'est deux choses, c'est deux fois l'absurde, d'une certaine manière. La première, c'est effectivement que Dieu a promis une descendance innombrable à Abraham et qu'il lui demande en même temps de sacrifier son fils unique et il n'en aura pas d'autre. Donc c'est complètement absurde. Bon. Or, Abraham croit en la promesse de Dieu. C'est-à-dire, il est prêt à tuer son fils unique, ce qui pose un certain nombre de problèmes éthiques, on va y revenir. Il est prêt à tuer son fils unique au nom d'une promesse qui est invraisemblable, au sens littéral du terme, invraisemblable, qu'on ne peut pas croire, qui n'est pas croyable, justement. Mais c'est pour ça qu'il a la foi. Justement, parce que c'est invraisemblable, c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ça, c'est la première notation de l'absurde. La deuxième notation de l'absurde dans la figure d'Abraham, c'est effectivement le caractère qui nous choque tous de l'homicide, enfin de l'infanticide, c'est-à-dire le pire des crimes. Bon, c'est-à-dire le fanatisme, il faut le dire purement et simplement, le fanatisme d'Abraham, qui est, il n'y a pas à l'atténuer, il est parfaitement choquant et il est parfaitement injustifiable, parfaitement injustifiable. Bon. Et ce que veut montrer Kierkegaard là-dessus, qui ne cherche pas à adoucir l'image, au contraire, qui en fait quelque chose de proprement scandaleux, ce que cherche à montrer Kierkegaard ici, c'est la transgression effectivement du religieux par rapport à l'ordre éthique. On ne saurait être plus actuel, hein. C'est, j'allais dire, plus dangereux de ce point de vue-là. Le religieux, ce n'est pas l'éthique. Voilà ce que veut dire Kierkegaard.
L'éthique, on peut dire que c'est la vie en société.
C'est la vie en société, c'est la loi morale, tout simplement. C'est tu ne tueras point. C'est-à-dire la loi de Dieu lui-même. Enfin, ou ce qui pourrait être la loi de Dieu lui-même, en tout cas, en tant que cette loi est rationnelle. C'est le rationalisme moral kantien.
Le religieux peut contredire la morale.
Exactement. Le religieux contredit la morale, contredit la loi morale, et même d'une certaine manière, l'enseignement le plus évident de la loi morale, c'est tu ne tues pas tes enfants. Tu ne tues pas tes enfants. Mmh. Tu ne tues personne d'ailleurs, mais tu ne tues pas tes enfants. Bon. Ce que veut montrer Kierkegaard ici, c'est que on ne doit pas confondre le religieux avec l'éthique ou la loi morale. Or ça, c'est exactement ce qu'avait fait la religion des Lumières. La religion des Lumières, c'était de rendre la foi parfaitement rationnelle, moralement rationnelle cette fois-ci. C'est-à-dire dire la loi divine, c'est en fait la loi de la raison. Et c'est à cette seule condition que la religion est sauvable. La provocation kierkegaardienne, très romantique de ce point de vue-là aussi, la provocation kierkegaardienne, c'est de dire, eh bien non, la foi n'est pas réductible à la morale. Elle est tellement peu réductible à la morale que l'une des figures majeures se manifeste comme parfaitement criminelle. Parfaitement criminel.
Une bonne manière de comprendre cette distinction entre le religieux et l'éthique, c'est de comparer, voire d'opposer Abraham d'un côté à Agamemnon de l'autre, le roi de Mycène et d'Argos, qui va sacrifier sa fille Iphigénie pour sauver son peuple. Kierkegaard va dire que ça, c'est un geste qui est éthique, puisqu'il est là pour sauver le général, la société, alors qu'Abraham, finalement, ne sauve personne dans son geste, si ce n'est peut-être son rapport à Dieu. La distinction est claire, Vincent Delecroix, mais quand même, une fois que nous avons dit ça, une fois que nous avons pointé, et Kierkegaard le fait de manière très explicite, le caractère absolument scandaleux de la demande de Dieu à l'égard d'Abraham et de l'obéissance, de la soumission d'Abraham à Dieu au nom d'une certaine foi qui, tout fanatique soit-elle, ne s'interdit rien, justement, est absolument transgressif pour la société. Comment dire cela d'un côté, de l'autre, faire de cette existence religieuse, de ce geste du chevalier de la foi, c'est l'expression de Kierkegaard, le sommet d'une existence bien comprise.
Ben tout simplement parce que la foi, pour Kierkegaard, est susceptible de produire une éthique. C'est-à-dire de produire une éthique, aussi étrange que ça puisse paraître. On oublie quand même régulièrement dans la ligature d'Isaac que Dieu arrête le geste d'Abraham, c'est-à-dire interdit le sacrifice humain. Anthropologiquement, il est entendu. L'idée, c'est que si Abraham restait tout en haut de sa montagne avec son fils, toujours en brandissant le couteau, là, on aurait affaire à un fanatique absolu. C'est-à-dire, j'obéis à Dieu parce que j'entends des voix et je tue mon prochain parce que c'est très bien pour lui et c'est Dieu qui me l'a demandé. Mmh. L'idée, c'est la restitution d'Isaac. Et c'est ça qui est important pour Kierkegaard. C'est-à-dire que c'est une métaphore, aussi violente soit-elle, où ça peut être compris comme une métaphore. L'autre grande figure, c'est Job, chez Kierkegaard. Et Job, comme vous le savez, ce qui lui arrive, c'est qu'il perd tout et qu'il reçoit tout au double, à la fin. Isaac, c'est la même chose. C'est-à-dire, le sacrifice, interprété philosophiquement, le sacrifice d'Isaac constitue à dire... Pour parvenir à ton prochain, c'est-à-dire pour entrer dans la loi royale qui est l'amour du prochain, et c'est l'éthique seconde, ce que Kierkegaard appelle l'éthique seconde, c'est-à-dire l'éthique née de la loi religieuse, l'amour absolu, l'amour du prochain, tu dois sacrifier l'autre en tant qu'existence immédiate. Ça ne veut pas dire le tuer, évidemment. Ça signifie le faire passer à la puissance spirituelle supérieure. Isaac est redonné à Abraham comme... Si Isaac avait été dans sa vie immédiate, c'est très spéculatif, très proche de Hegel en réalité, comme si dans sa vie spéculative, comme dans sa vie immédiate, il avait été sacrifié, mais qu'il était restitué, et c'est ça la postérité d'Abraham que lui a promis Dieu, c'est-à-dire une postérité spirituelle, comme s'il lui avait été restitué comme un fils selon l'esprit et non plus comme un fils selon la chair.
Mais le degré d'abstraction et d'intelligence dont il faut faire preuve pour comprendre la nature de ce geste montre bien qu'il est très dangereux de séparer foi et raison.
Absolument, mais Kierkegaard ne s'en cache nullement. Et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de Kierkegaard, c'est, et c'était son but, le but de son œuvre, c'est-à-dire de placer au seuil de la foi. C'est trop facile de dire ouais, c'est nul, c'est pas intéressant, ou alors ces gens sont des dingues, etc. C'est trop facile. Il faut se confronter soi-même à ce paradoxe. Il faut se confronter soi-même à ce hiatus. Combien de décisions véritables vous avez prises en dehors des raisons ? À peu près toutes celles qui sont libres sont en dehors des raisons. Il faut vous confronter à ça. Il faut se confronter.
Mais sans renoncer à la raison, c'est ça que je veux
mais
dire.
Bien sûr que
finalement,
non.
Est-ce qu'il reste pas un peu hégélien en disant qu'il faut la raison doit rester jusqu'au bout quand même.
Elle est restituée.
Sinon, c'est le fanatisme.
Elle est restituée. Abraham redescend. Il est le chevalier de la foi.
Oui,
il
parce que Dieu lui demande.
Il redescend parmi les siens. Et alors, il est seul au milieu des siens. Personne ne peut comprendre l'expérience qu'il aura vécue. Mais il est au milieu des siens et il devient le patriarche. C'est-à-dire, il est le père d'une descendance innombrable, le père des croyants, comme on peut l'appeler dans les religions de la révélation. Mais ça signifie surtout que, c'est pour ça que j'insistais sur le caractère non irrationaliste de la foi kierkegaardienne. Il ne faut pas accentuer le fait, c'est même pas Pascal, si vous voulez. Ça signifie qu'il y a, pour le passage à l'existence religieuse, il y a un saut. Ce saut, il faut l'accomplir ou pas, ou le refuser, mais il faut être sur le seuil du saut pour comprendre ce que ça peut signifier. Après, nous avons effectivement de très bonnes raisons pour refuser de le faire. Hein, et je suis bien placé pour le savoir. Nous avons de très très bonnes raisons pour ne pas faire ce saut dans le religieux, pour le refuser au nom de l'éthique, au nom d'un certain nombre de choses, au nom d'une mauvaise compréhension kierkegaardienne du religieux, par exemple. C'est la critique que fait Lévinas, par exemple. Mais il faut au moins être là pour pouvoir le penser. C'est-à-dire, il faut être dans cette expérience-là. Il faut comprendre de l'intérieur ce qui peut se passer. Tout le but du texte Crainte et tremblement, c'est ça. Hein. C'est essayer de comprendre cette espèce de trou noir qu'est le sceau de la foi.
Crainte et tremblement essaie de comprendre ce trou noir qu'est le sceau de la foi, en effet, mais la conclusion apportée par Kierkegaard est différente de la vôtre, me semble-t-il, Vincent Delecroix, parce que pour Kierkegaard, c'est quand même le stade ultime de l'existence. C'est-à-dire que c'est pas simplement avoir conscience des dangers d'une séparation entre foi et raison, comprendre que seule l'ultime décision est celle que je peux prendre face à moi-même, absolument seule, et qui consiste à choisir de sauter ou non dans le stade religieux de mon existence. Il faut le faire. Kierkegaard parle de soumission à l'égard de ce Dieu, de même quasiment la volupté qu'il trouve dans cette soumission. Le Dieu et même le Christ sont bien présents chez lui. C'est pas simplement une réflexion de philosophe.
Ah non, c'est même le contraire. Et j'ai du mal à me faire comprendre. S'il y a bien un auteur religieux, c'est Kierkegaard. Il s'agit pas. Quand je parlais de métaphore tout à l'heure, c'était une métaphore spéculative. C'est-à-dire, il faut comprendre ce que peut être le passage de l'individu charnel à l'individu spirituel. Bon, c'est ça le sacrifice d'Isaac, d'une certaine manière. Mais il n'est absolument pas question de nier le caractère, j'allais dire, hyper religieux de la philosophie de Kierkegaard. C'est simplement, il ne s'agit pas simple. Il s'agit effectivement pour lui d'en faire la solution, si je puis dire, la rédemption de cette maladie du sujet qu'est le désespoir. Vous pouvez pas vous ne vous sortez du désespoir qu'en désespérant radicalement. C'est-à-dire en arrivant à un point où vous êtes absolument seul. Et oui, personne ne peut rien pour vous. Personne ne peut rien pour vous. Dans cette solitude absolue, vous êtes confronté à vous-même et qu'à vous-même. Et à ce moment-là, vous êtes sûr que vous êtes un sujet singulier. Et c'est précisément ça qui vous ouvre, pour Kierkegaard, la porte du stade religieux, c'est-à-dire Être devant Dieu, il n'y a pour Kierkegaard que devant Dieu que vous êtes un individu singulier.
Et qu'est-ce qui fait, pensez-vous, qu'à constat égal de l'absurdité de l'existence, les uns, Camus par exemple, reconnaissent cette solitude face à l'absurde et finalement s'en accommodent, forment une philosophie à partir de ce constat, et les autres, Kierkegaard en chef de file, va proposer cette autre option, ce dépassement presque de l'absurde dans la religion. Est-ce que c'est une affaire uniquement d'éducation et de psychologie, puisque lui y accorde beaucoup d'importance?
Oui et non. C'est une autre histoire, vraiment au sens strict du terme d'ailleurs, parce que c'est une autre histoire de la philosophie. Il ne s'agit pas simplement de dire, bon, bah, y a un existentialisme athée et puis il y a une philosophie de l'existence kierkegaardienne religieuse. Et les uns comme les autres se retrouvent à peu près au même niveau au départ, si je puis dire, c'est-à-dire l'absurdité, la vie n'a pas de sens, etc. C'est un peu amalgamer les choses un peu trop vite. Ce qui est sûr, c'est que l'idée d'une philosophie de l'existence non religieuse n'a strictement aucun sens pour Kierkegaard, il faut le dire. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez utiliser des concepts kierkegaardiens, vous pouvez, Dieu sait si je m'en prive pas, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas les extraire aussi facilement, j'allais dire, de la vocation religieuse de cette œuvre. L'idée des stades de l'existence pour Kierkegaard, elle est liée tout simplement, comme vous l'avez rappelé, au fait que le stade religieux est le stade dans lequel le sujet est un véritable sujet. La question, c'est pas tellement celle des existentialistes de savoir si le monde a du sens ou s'il a pas de sens. À dire vrai, on souhaiterait plutôt qu'il n'en ait aucun. Et contrairement au pathos un peu lassant des existentialistes, ah mon Dieu, le monde n'a pas de sens, c'est horrible, je suis en plein désespoir, etc. Mais moi, je me réjouis tous les jours qu'il n'ait pas de sens, parce que si ces massacres-là sont destinés à justifier quelque chose, alors là, c'est encore plus désespérant. Donc, contrairement à ce qu'on dit, le fait que le monde n'a pas de sens, c'est absolument...
C'est une bonne nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça n'a absolument rien de désespérant. Plutôt, nous sommes soulagés d'une espèce de cynisme justifiant les massacres et les destructions de l'histoire humaine. Mais ce n'est pas le problème de Kierkegaard, ça c'est sûr. Ne serait-ce que parce que, coupablement à mon sens, là pour le coup, il se désintéresse de ce qu'il appelle l'histoire mondiale, c'est-à-dire de ce qui, d'une certaine manière, pour lui, disperse le sujet dans des préoccupations annexes à sa propre âme. C'est-à-dire ce qu'on peut reprocher à juste titre à Kierkegaard, c'est effectivement cette espèce mais ça vient de Socrate, hein, cette espèce d'hyper-préoccupation de soi-même.
C'est-à-dire, comme dirait Hume, de s'inquiéter davantage d'une égratignure à son petit doigt que de la destruction du monde.
Alors, ce serait difficile de faire
enfin de peut-être le seul point commun qu'on a d'ailleurs entre Kierkegaard.
Ouais, ce serait difficile de parler de cynisme ou d'indifférence de la part de Kierkegaard, qui n'a au contraire que pour préoccupation le singulier, comme il le dit, c'est-à-dire ce que nous sommes tous en train de devenir singulièrement, c'est-à-dire justement tout sauf des individus singuliers.
Eh bien, il y a un autre Danois qui le dit à sa façon, il n'a pas tant que ça un des Danois, mélancolique, angoissé sans doute, submergé par ses propres malheurs, aux dépens de toute forme d'intérêt pour le reste du monde, c'est Hamlet, Vincent Delacroix.
J'ai, depuis peu, mais par quoi je ne sais, perdu toute ma joie. Et laisser là toutes les choses que j'avais coutume d'exercer. Car tout à mes dispositions pèse si lourdement que ce bon vieux plateau, la terre, me semble un promontoire stérile. Et ce très excellent tulle, l'air, voyez, ce brave firmament suspendu, ce toit majestueux orné d'or et de feu, ne m'apparaît rien plus qu'un fétide et pestilentiel agrégat de vapeur. Et quel chef-d'œuvre que l'homme, n'est-ce pas? Combien noble en sa raison, en ses facultés tant infinies, si expressif en sa forme, si admirable en ses mouvements, comme un ange en action, en sa préhension des choses, un dieu. La beauté de ce monde, le parangon du règne animal. Eh bien, que m'est cependant cette quintessence de poussière? L'homme ne fait plus mes délices.
Du chevalier de la foi au prince du Danemark, de Kierkegaard à Hamlet, un grand merci à vous, Vincent Delacroix, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans notre parcours kierkegaardien. C'est dur à dire, hein.
Vous merci arrivez beaucoup. Oui, c'est pratique.
Oui, c'est ça, vous en avez plus l'habitude. Je renvoie les auditeurs aux ouvrages que vous avez consacrés à Kierkegaard et puis à votre dernier roman, Ascension, publié aux éditions Gallimard. L'ascension, on la pratique tous les jours sur les chemins de la philosophie, de minute en minute jusqu'au sommet ultime, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour chère Géraldine.
Bonjour chère Adèle et bonjour à tous.
Alors comme tous les jours, vous nous faites un bulletin de l'actualité philosophique.
Complètement.
Quel événement a retenu votre attention aujourd'hui?
Un événement qui va vous plaire Adèle, c'est un phénomène éditorial, c'est le phénomène Henri David Thoreau la quinzaine d'éditions de ses textes cette année. Alors certes, nous fêtons son bicentenaire, mais depuis les années 2000, ses œuvres sont régulièrement rééditées et retraduites. On trouve pas moins de 8 traductions de La désobéissance civile, quand même, 7 de Walden, et dont la très belle traduction de Brice Mathusson aux éditions Le Mot et le Reste, qui m'a justement raconté au téléphone sa propre découverte de Thoreau et en dit ainsi un peu plus sur cet engouement pour ce philosophe.
Ma première impression, en fait, elle date d'il y a très très longtemps, quand j'ai lu Walden dans la traduction de Fadulet, donc celle de Gallimard, et j'avais été totalement séduit par ce texte incompréhensible par endroits. Et je sais que l'engouement que ont ressenti beaucoup de gens pour Walden est dû à une espèce d'aveuglement incroyable qui fait que lorsqu'on regarde l'édition qui est disponible dans l'imaginaire depuis 1928, il y a des passages entiers qui sont totalement incompréhensibles en français, alors qu'en américain, ils sont tout à fait clairs. Certes complexes, mais clairs. Donc j'ai essayé, moi, en le retraduisant, de rendre clair ce qui était obscur, et en même temps de garder certaines parts d'obscurité qui, il faut bien le dire, sont inexpugnables du texte et qui font partie de la glose qui existe autour de l'œuvre de Thoreau depuis 1854, date de sa première parution.
Alors fascination pour l'incompréhensible, intérêt financier des maisons d'édition, ou mieux, quand même plus valorisant, amour de la nature, curiosité pour la liberté d'esprit, la langue de Thoreau, ou sa vie philosophique, comme le soutient Michel Onfray dans son dernier essai, les raisons ne manquent donc pas pour le lire, mais... Comment traduire simplement, légèrement, sensuellement, cette philosophie qui n'en a pas l'air? Comment traduire celui qui voulait justement ne pas se limiter aux livres, aux mots et qui touchait à tout?
Les problèmes que j'ai rencontrés, les problèmes de traduction, ils sont immenses, parce que non seulement ça touche évidemment à la flore, à la faune, mais ça touche aussi à une pensée qui est très complexe et qui n'est pas toujours formulée de manière définitive, mais qui est un ensemble de notes que Thoreau prend en se disant qu'il va y revenir, et parfois il y revient, mais parfois il n'y revient pas. Et ce sont des choses de l'ordre un peu, non pas du brouillon, mais de choses qui n'étaient, en tout cas pour le journal, pas destinées à la publication. Donc il n'y a pas de pensée définitive, il y a des sortes d'approches, parfois de tâtonnements, parfois d'hypothèses, qui sont reprises ou qui ne sont pas reprises, qui sont développées ou non, et qui font que parfois la pensée de Thoreau n'a pas la fermeté définitive de certains philosophes, mais au contraire, dévie très très facilement vers le journal, vers la chronique, vers la poésie, vers l'économie domestique.
Écoutez, Brice Mathusson, traduire Thoreau serait presque un cadeau ou pas vraiment, en fait, en tout cas l'occasion d'être dans l'air du temps tout en nous donnant des outils critiques pour l'approcher.
Plus qu'un cadeau, c'est un vrai défi d'être à la fois au fait de ce nature writing, c'est-à-dire les écrivains qui parlent de la nature, qui est une spécialité américaine, qui a conquis un grand public en France. Mais il n'y a pas que ça. Thoreau, tout d'un coup, découvre, vers le milieu du 19e siècle, des traductions en américain des textes de la pensée orientale de l'Inde, de Chine, et il découvre ces choses-là, et tout d'un coup, il s'emballe, comme tous les transcendantalistes dont il fait partie, et il s'en sert abondamment, à la fois dans Walden, dans son journal, et ça devient une sorte de système de philosophie dont il s'approprie un certain nombre de thèmes pour à la fois approfondir et justifier son mode de vie, c'est-à-dire le rapport qu'il peut avoir avec la nature, ce rapport aussi à l'écart de la société, cette espèce de mise en marge et d'excentricité systématique qu'il veut vivre et dont il veut faire profiter le lecteur, et puis aussi cette contestation globale de la société américaine et de ses valeurs.
Donc lisez Thoreau, Walden et le journal traduit par Brice Mathusson sont disponibles aux éditions Le Mot et le Reste, et chez ce même éditeur, Teinte d'automne et Marché viennent de paraître, et puis on mettra en ligne aussi tous les autres ouvrages qui paraissent.
Merci Géraldine, on ne parle jamais assez de Thoreau. Et merci à Pauline Vermeuren qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Bruno Gagnère-Fontani qui est à la prise de son, avec aujourd'hui derrière la vitre Sylvaine et Marie-Pierre. Une bonne nouvelle à l'issue de cette émission. Kierkegaard vous a plu, vous en voulez encore? Eh bien, on se retrouve demain à 10h pour lui poser toutes vos questions. Après, faut-il croire en Dieu? Demain, ce sera Philippe Chevalier qui répondra à la question suivante. Se marier rend-il plus heureux? Attention, la réponse de Kierkegaard est pour le moins inattendue.